Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme tous les vendredis, nous achevons notre semaine avec un sujet d'actualité économique. Aujourd'hui, peut-on encore sauver le soldat OMC ? L'Organisation mondiale du commerce traverse depuis des années une crise existentielle qui semble s'être encore aggravée ces derniers mois. Les attaques en règle du président américain se multiplient, Donald Trump menaçant régulièrement de quitter une institution que les États-Unis ont pourtant largement contribué à créer. Aujourd'hui, alors que le commerce mondial ne cesse de ralentir sous l'effet, entre autres, des tensions commerciales, la refonte de l'OMC apparaît plus urgente que jamais. En décembre, les membres du G20 réunis à Buenos Aires se sont d'ailleurs mis d'accord pour tenter de sauver une organisation à bout de souffle. Alors peut-on encore sauver le multilatéralisme commercial ? Comment refonder les règles du commerce mondial près de 25 ans après la création de l'OMC ? Et comment l'Europe peut-elle peser dans les débats face à la Chine et aux États-Unis ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Catherine Brosse nous emmène dans les pages d'éthique et économie d'Amartya Sen. Avec nous autour de la table, trois invités. Bonjour Elvire Fabry.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste des politiques commerciales de l'Union européenne. À vos côtés, Emmanuel Buteau-Stubbs. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'Union des industries textiles et présidente du comité de négociation multilatérale du MEDEF. Et vous avez mené à Genève, au siège de l'OMC, la première délégation d'entreprise venue soutenir la réforme de l'organisation. Également parmi nous, Sébastien Jean. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Les deux parties vont intensifier les discussions dans le but de renforcer les règles internationales en matière de subventions industrielles. C'est une percée. Pour la première fois, la Chine a accepté de s'engager avec l'Europe sur cette priorité qu'est la réforme de l'OMC.
Il est évident que nous devons travailler tous ensemble à une refonte en profondeur de cette organisation. Notre commerce international peut et doit être amélioré lorsqu'il y a des pratiques déloyales ou lorsque la propriété intellectuelle est pillée.
Nous croyons que de très nombreux pays, dont la Chine et les États-Unis, trouveront intéressante l'idée de regarder les vieux problèmes d'une nouvelle façon. C'est le temps de faire cette réforme et c'est un bon départ.
On entendait Donald Tusk, le président du Conseil européen, Emmanuel Macron et enfin Jim Carr, le ministre du Commerce canadien. Est-ce que vous diriez, Sébastien Jean, après avoir entendu ces différentes prises de parole, qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience généralisée de la nécessité de réformer l'OMC ?
Il y a une prise de conscience très large, je crois. Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser. Il y a une prise de conscience très large du fait qu'on a une organisation qui repose sur des bases dont les négociations ont commencé il y a presque 30 ans, ont abouti il y a 25 ans, que le monde a énormément changé depuis et que cette organisation, elle ne peut pas rester figée comme ça, ad vitam aeternam, avec donc des règles qui vieillissent, qu'on n'arrive pas à mettre à jour avec la réalité du monde, un monde dans lequel... Il y a un Internet qui était balbutiant quand on négociait les règles actuelles, dans lequel la Chine a pris une importance considérable, centrale, qu'elle n'avait pas du tout à ce moment-là. Un monde dans lequel il y a ces fameuses chaînes de valeur qui sont omniprésentes. Donc, le caractère daté un peu et le besoin de mise à jour du logiciel de l'OMC, je crois qu'il est évident. Et ça ne veut pas dire qu'il arrange tout le monde et ça ne veut pas dire qu'il soit faisable parce que le défi est immense, étant donné le nombre de membres, 164, étant donné le besoin, cette règle de fonctionnement par consensus.
Alors on va voir effectivement que les positions sont assez divergentes sur la façon de réformer l'OMC, mais d'abord peut-être qu'il y a eu en effet, au-delà effectivement du fait que le monde a changé, une prise de conscience de l'importance de l'OMC, malgré ou peut-être justement à cause de la crise qu'elle traverse, Elvire Fabry.
C'est vrai qu'on avait pris un petit peu l'habitude de se détourner de l'OMC par lassitude, par enlisement finalement de ces négociations que vient d'évoquer Sébastien Jean. Et aujourd'hui, il y a un enjeu aussi beaucoup plus pressant qui se présente à nous. On a maintenant en tête l'échéance du 31 octobre pour le Brexit, mais il y a une autre échéance beaucoup plus préoccupante qui est la fin décembre 2019. date à laquelle l'organe d'appel de l'OMC, qui est en fait tout en haut du sommet de cette organisation, qui parachève le mécanisme de règlement des différends et qui est en fait le muscle de l'OMC, qui permet de régler les différends entre les différents, tous les 164 membres de l'OMC. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les règles de l'OMC peuvent être appliquées, respectées, qu'il y a une forme de régulation. Et c'est toute la charpente de la régulation de la mondialisation qui repose là-dessus. Or, Donald Trump bloque, après que Obama ait commencé à le faire, la nomination de nouveaux juges, et ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui, on n'a plus que 3 juges dans cette institution qui doit en connaître 7. Fin décembre, si les nouveaux mandats ne sont pas prolongés, cette organisation, l'organe d'appel serait bloqué. Et là, on a quelque chose qui nous pousse à regarder de plus près quels sont les enjeux de réforme spécifiques, au-delà de tous les nouveaux secteurs dans lesquels il faut développer des réglementations. En effet, le e-commerce et dans d'autres, il y a des réformes spécifiques qui se jouent derrière qui sont propres aux critiques que les États-Unis adressent au fonctionnement de l'organe d'appel de l'OMC.
Alors, on va voir effectivement quelles sont ces critiques formulées par les États-Unis. Mais d'abord, peut-être sur cette crise de légitimité plus largement dont souffre aujourd'hui l'OMC, est-ce que Emmanuel Butostop, ce qu'on constate en réalité, c'est que l'OMC est une organisation assez faible depuis ses origines, lorsqu'elle a succédé au GATT.
On pourrait plutôt dire le contraire, c'est-à-dire que l'OMC s'est renforcée par rapport au GATT, essentiellement avec la fonction juridictionnelle et l'organe d'appel. Donc au contraire, l'OMC est plus musclée, a plus de pouvoir que le GATT. Je rappelle également dans un secteur qui m'est cher que si l'OMC s'est créé, c'est aussi parce qu'il y a eu un accord de démantèlement des quotas textiles habillement. Voilà, donc en fait l'OMC détient plus de pouvoir, et notamment sur la fonction juridictionnelle, que le GATT. Pourquoi l'OMC a été affaiblie considérablement, ça a été dit par les deux interlocuteurs précédents. Aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a vraiment un sentiment d'urgence sur la nécessité d'une réforme de l'OMC. Et que ce sentiment d'urgence, il est partagé par beaucoup de parties. Non seulement par l'Union européenne, par les États-Unis, d'une certaine manière aussi par la Chine, mais aussi des pays en développement qui n'ont pas forcément trouvé exactement ce qu'ils attendaient au sein de l'OMC. Le premier paradoxe, c'est qu'il y a un consensus sur la nécessité de la réforme. Mais évidemment, la difficulté, c'est que on ne parle pas de la même réforme. Et on a essentiellement aujourd'hui deux approches, hein, classiquement, c'est-à-dire soit une réforme des petits pas, c'est-à-dire on obtient un accord plurilatéral sur un sujet, une nouvelle définition dans certains domaines, et puis finalement, il y aura un marketing politique pour montrer que cette petite réforme, elle a permis de remettre sur les rails l'OMC. Et puis il y a une autre école qui consiste à dire, compte tenu de la profondeur et de la rapidité des évolutions dans le commerce mondial, c'est pas une politique des petits pas qu'il faut, mais c'est véritablement une refonte systémique. Mmh. Et évidemment, une refonte systémique, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, on touche exactement à ce que vous disiez, c'est-à-dire comment bâtir un équilibre entre ces puissances commerciales de taille très différentes, qui se sont spécialisées dans le commerce mondial sur des spécialités différentes de produits industriels ou de services. Comment est-ce qu'elles peuvent s'entendre pour réformer les règles actuelles, dont certaines sont à bout de souffle, notamment en matière de subventions industrielles, et comment ces puissances peuvent-elles s'entendre pour développer des nouvelles règles pour encadrer le commerce du 21e siècle? On y reviendra.
Alors, pour comprendre effectivement comment elles peuvent s'entendre, il faut comprendre ce que les États-Unis reprochent aujourd'hui à l'OMC. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, mais alors ce qu'on constate peut-être, Sébastien Jean, c'est que les États-Unis finalement reprochent à l'OMC, à certains membres de l'OMC, d'essayer d'obtenir par le biais des différends ce qu'ils ne parviennent pas à obtenir par la négociation.
Oui, alors il y a un mélange de choses assez variées dans ce que les États-Unis reprochent à l'OMC, mais il y a effectivement une récrimination particulière qui est liée justement à ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire le fait qu'il y a une fonction quasi-judiciaire de l'OMC qui est contraignante. Et au fond, ce que les États-Unis n'acceptent pas, alors que c'est eux qui l'ont demandé, c'est eux qui l'ont négocié, c'est que ça les contraigne véritablement dans l'utilisation de leurs instruments de défense commerciale, en particulier l'antidumping. Parce que l'antidumping, c'est bon, d'une part, c'est une source de revenus très importante pour un certain nombre d'avocats, dont le représentant au commerce américain actuel a fait partie pendant des années. Et d'autre part, ça a été aussi une source de protection et de rente, il faut bien appeler les choses par leur nom, pour quelques industries bien spécifiques, et en particulier celle de la sidérurgie. Là, il y a une demande très spécifique, et on a quand même en grande partie l'impression que les États-Unis aujourd'hui sont en train de prendre en otage un système entier pour un petit problème lié à une caste qui défend ses droits. Mmh. Donc ça, c'est un peu c'est une partie de leur récrimination. Maintenant, je crois que à côté de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la raison pour laquelle les États-Unis sont insatisfaits avec le système commercial international tel qu'il existe aujourd'hui, multilatéral, elle est beaucoup plus profonde et structurelle que ça. C'est l'impression que aujourd'hui leurs intérêts ne sont pas bien défendus par rapport à ceux de la Chine en particulier, qu'ils ne veulent plus payer le prix d'un système si c'est pour qu'ils ne leur profitent pas vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que, pour faire très court, si on regarde la structure des échanges extérieurs américains aujourd'hui, il est tout à fait clair que leurs avantages comparatifs, là où ils font vraiment des revenus importants, c'est beaucoup plus les services, l'investissement direct à l'étranger que l'exportation de biens. Or, le système commercial multilatéral protège beaucoup mieux l'accès au marché étranger pour les biens, manufacturés en particulier, que pour les services ou l'investissement. Donc, au fond, eux disent, ça c'est bon pour la Chine, mais pour nous, c'est pas aussi intéressant. Et finalement, on s'était mis d'accord sur une certaine symétrie, un certain équilibre de l'accord. Aujourd'hui, cette symétrie est rompue. Donc, on n'est plus prêt à jouer le jeu. C'est pour ça que je crois que les récriminations d'aujourd'hui qu'expriment les États-Unis envers le système commercial multilatéral dureront après Trump. Il ne faut pas penser que le jour où Trump s'en va, le problème est résolu.
Et alors, est-ce que, selon vous, Elvire Fabry, ça plaide à ce que vient de nous expliquer Sébastien Jean en faveur d'une réforme de l'OMC ou d'un départ de l'OMC? Comment se situent aujourd'hui les États-Unis?
C'est vrai qu'au cœur de ces critiques, il y a cette question des subventions. Et il y a eu deux jugements de l'organe d'appel en 2011 et 2014 qui concernaient un contentieux entre les États-Unis et la Chine que les États-Unis ont perdu et qui a crispé cette position américaine et cette critique sur le fait que l'organe d'appel finalement avait rompu un peu l'équilibre entre libéralisation et utilisation des instruments de défense commerciale.
Mais pour bien comprendre, pour vous, c'est le signe d'un dysfonctionnement de l'OMC ?
C'est le signe de règles qu'il faut renforcer, qu'il faut resserrer. Et il y a, là, c'est pas l'objet de l'émission de rentrer dans ce genre de détails, mais il y a notamment un débat sur la façon dont on parle la définition des organismes publics. Et le fait qu'on considère qu'un organisme public, c'est un organisme qui est contrôlé par l'État. Et donc là, la question qui se pose derrière ça, c'est l'identification des entreprises d'État public chinoises comme étant des... Parce que c'est bien le sujet des entreprises...
C'est une question qui est au cœur du débat, en effet.
Voilà, c'est la place des entreprises d'État dans le système économique chinois et la façon dont on peut les identifier comme étant des organismes qui dépendent du gouvernement et qui donc font l'objet de subventions qui ne respectent pas les règles de l'OMC, règles qui devraient même être renforcées, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de plus en plus structurant. Et en fait, cette question-là, c'est la tête d'épingle du conflit actuel, parce que c'est sur ces questions de transparence et du rôle de ces entreprises que l'équilibre, le level playing field, ce qui permet d'avoir un commerce équitable, s'organise. Et alors là-dessus, c'est vrai que la critique américaine est forte, mais elle est rejointe par la position européenne, par la position japonaise, enfin par tous les partenaires dans le monde. Donc il y a matière à engager véritablement une réforme, et c'est ce qui a commencé, le travail de coopération a commencé à s'organiser.
Ce qui pose effectivement la question de la légitimité de cette critique américaine, puisqu'en effet, l'Europe s'est retrouvée dans la même situation, Emmanuel Buitenstubbs, par rapport à ces mesures anti-dumping.
Oui, tout à fait. Je pense que l'approche, on a un peu la vision en France d'un seul coupable, les États-Unis, évidemment avec une méthode assez brutale. Mais en réalité, quand vous discutez avec les Européens et avec un certain nombre de représentants de d'autres pays à l'OMC, on se rend compte que la plupart des critiques américaines sont parfaitement justifiées. y compris en partie sur l'organe d'appel, qui en matière de procédure a quand même subi un certain nombre de dérives, c'est-à-dire que les délais n'ont pas toujours été respectés, il y a d'autres objets indépendamment du litige premier qui ont été petit à petit apportés, d'où des procédures extrêmement longues, avec en plus parfois, y compris dans le cas Airbus-Boeing là, qui défrait récemment la chronique, des questions de mise en œuvre hein, des décisions de l'organe d'appel. Ensuite, les Américains y posent évidemment la question essentielle sur l'intégration finale de la Chine dans l'OMC. Ça fait plus de 15 ans que la Chine est dans l'OMC. Et clairement, les règles qui existaient avant l'entrée de la Chine n'étaient pas adaptées à la taille de cette économie. On le voit en particulier dans le domaine des subventions industrielles, ça a été très bien dit.
Et la Chine a été énormément critiquée sur le fait justement de ne pas respecter ces règles.
Oui, mais peut-être que ces règles n'étaient pas écrites pour elle en fait. Donc là, il faut bien voir les choses quand on regarde effectivement la définition des subventions industrielles et les quatre critères cumulatifs qui doivent être remplis. C'est difficile de l'appliquer à un certain nombre, à la lettre, de manière littérale, d'entreprises d'État ou sous contrôle d'État chinoises. Ensuite, les Américains, ils posent également de très bonnes questions sur la différenciation entre les pays en développement. Puisqu'aujourd'hui, il faut bien savoir qu'au sein de l'OMC, c'est un statut autodéclaratif. Donc, vous déclarez que vous êtes un pays en développement. Tout ça n'est pas sans conséquence, parce que quand vous êtes un pays en développement, vous avez droit à toute une série de dispositions particulières au titre du traitement spécial et différencié dans les négociations commerciales. Et ça prend évidemment tout son poids dans le domaine des biens industriels, puisque en tant que pays en développement bénéficiant du traitement spécial et différencié, vous allez avoir des délais de mise en œuvre plus longs et vous allez avoir peut-être des baisses de droits de douane moins drastiques. Et surtout des listes de flexibilité pour finalement laisser de côté un certain nombre de secteurs protégés.
Donc, je pense que ce qui apparaît, c'est une volonté peut-être de réinventer des catégories.
Absolument. Donc, les Américains ont mis sur la table le 15 janvier un papier tout à fait intéressant sur la différenciation. Ils examinent différents critères. Ils appellent à des critères objectifs et ils posent quelques. Alors aussi, c'est un peu provocateur, hein, mais ils disent voilà, dorénavant, tous les pays membres du G20, tous les pays membres de l'OCDE. Tous les pays considérés par la Banque mondiale comme ayant un haut niveau de revenus ne devraient plus prétendre à bénéficier d'aucune disposition du traitement spécial et différencié. Il y a quelques mouvements positifs dans cette direction, notamment du Brésil. Voilà. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir petit à petit, là aussi, cette poussée américaine forte, peut-être peu diplomatique, mais qui est en train de produire des effets rapides.
Elvire Fabry.
Sachant que là, une fois de plus, l'éléphant dans la pièce, c'est la Chine. C'est la Chine. Pays riche avec beaucoup de pauvres ou pays pauvres avec beaucoup de riches. Enfin, c'est la question avec laquelle on revient toujours. Mais c'est la Chine qui continue à se cacher derrière ce statut de pays en développement et qui est loin d'être le cas.
Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être une prise d'otage de cet organe d'appel par les États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a véritablement un risque d'explosion de l'OMC? Et la question qui se cache derrière, c'est quel est le risque, pour le dire un peu brutalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un organe de régulation des échanges, Sébastien Jean?
Il y a un risque existentiel évident. Il me semble que la menace la plus réaliste, la plus probable, ça n'est pas celle de l'explosion du système. C'est celle de sa marginalisation d'une certaine façon, ou plus exactement, que l'OMC devienne un système d'organisation des échanges internationaux, entre guillemets, par beau temps. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'enjeux particulièrement brûlants, de tensions politiques très fortes, il y a des accords, on les respecte. Et puis, la tentation de s'en écarter, elle arrive quand il y a une tension particulière, parce que c'est un secteur sensible, parce qu'il y a des ajustements qui socialement posent problème, parce qu'il y a un enjeu technologique, diplomatique, que sais-je. Et donc, je crois que si l'OMC perd son perd son caractère contraignant, elle sera dépassée dès lors qu'un certain niveau de tension sera dépassé dans la nature des différents commerciaux. C'est plutôt ça qui risque de se passer. Et donc, c'est un retour en force du caractère politique, du caractère discrétionnaire, du rapport de force politique dans l'organisation des échanges internationaux. C'est ça qui nous menace. Et il faut bien comprendre que nous, Européens, sommes assez menacés par ce retour, s'il intervenait, parce que nous sommes beaucoup beaucoup plus fort commercialement que politiquement, étant donné que l'Europe est une organisation régionale, ça n'est pas un État. Et donc, on voit bien que quand il y a des pressions diplomatiques, on n'est pas à la hauteur des États-Unis ou de la Chine, tandis que commercialement, on est à la hauteur.
Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème aussi à Donald Trump, c'est l'excédent commercial de l'Union européenne.
Oui, Donald Trump a une fixation très ancienne sur le déficit commercial. Il refuse d'admettre, ce qui est une évidence pour quiconque a essayé de réfléchir à la question, c'est-à-dire le fait que le déficit commercial, ça n'est pas une question du niveau des droits de douane, c'est une question macroéconomique d'équilibre au niveau du pays, entre l'épargne et l'investissement, ou pour le dire autrement, mais ça revient au même, entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme. Donc, voilà, il voudrait régler ça par les droits de douane, ça ne marche pas, il l'a bien prouvé l'an dernier, il nous a fait des travaux pratiques, il a dit j'augmente les droits de douane, ça va baisser mon déficit commercial, et pas du tout, comme dans le même temps, il avait fait plus de déficit public, hein, donc pour le coup, l'État a diminué son épargne, eh bien ça a accru le déficit commercial de quasiment 100 milliards de dollars, merci pour la démonstration. Voilà, ça n'est pas ça vraiment le problème. C'est beaucoup plus par rapport à la Chine, ce qu'on vient de dire. Et donc, effectivement, au cœur de la discussion aujourd'hui, il y a l'équilibre du système tel qu'il existe dans un contexte où, en particulier, on a un État chinois, un capitalisme chinois, une économie socialiste de marché qui est extrêmement coordonnée par l'État et le parti et qui fait un usage important de subventions, mais qui ne tombe pas sous la coupe des disciplines telles qu'elles ont été définies dans les accords internationaux. C'est ça, vraiment, je crois, le cœur du problème. Il y a aussi, il y en a d'autres, hein. Il y a la question des questions de réciprocité, des questions de technologie, mais là, il y a un problème particulièrement brûlant.
Alors justement, quelle peut être la position de la Chine ? Mardi, lors du sommet Bruxelles-UE, le Premier ministre chinois Li Keqiang a semblé plus ouvert à une réforme de l'OMC. Est-ce que la Chine pourrait être prête aujourd'hui à faire des concessions, Elvire Fabry ?
Bah écoutez, c'est vrai que ça vient à l'issue d'un renforcement de la politique européenne vis-à-vis de la Chine, avec une série d'initiatives qui ont été prises ces derniers mois, depuis une initiative qui a été prise pour mettre sur pied une réponse européenne au projet de route de la soie chinois, avec l'adoption d'un mécanisme de contrôle des investissements directs étrangers. Également une position, une stratégie de la Commission européenne qui est venue ces derniers jours et qui met sur la table toute une série d'exigences exercées vis-à-vis de la Chine sur l'ouverture des marchés publics, globalement sur l'ouverture du marché chinois, mais aussi sur les questions de subventions, de transfert de technologies forcées et d'autres points. Et puis sur toute une série d'initiatives que les Européens devraient prendre s'il s'agissait d'avoir une position moins coopérative et plus offensive si la Chine ne bouge pas sur ces enjeux de réforme de l'OMC.
Toute la question, c'est la question du respect de ces promesses qui viennent d'être faites par la Chine.
Oui, alors ce qui est intéressant là dans le sommet, cette rencontre bilatérale de mardi, c'est qu'en effet, on est encore dans le discours, mais on est quand même sur des engagements plus fermes et qui vont peut-être au-delà de ce qu'on pouvait attendre de la position chinoise. Il faut maintenant mettre un agenda derrière tout ça, il faut des échéances, il faut une démonstration effective du fait que la Chine bouge. Mais dans le contexte actuel de la négociation qui se joue par ailleurs entre les États-Unis et la Chine et dont on attend les résultats et dont on se dit qu'il va y avoir une forme de deal quelconque, est-ce que c'est une ouverture du marché chinois pour les exportateurs américains, est-ce que on n'en connaît pas la teneur actuellement, mais dans ce contexte-là, c'est un message envoyé par la Chine et que la Chine envoie également à Washington que on peut garder cette régulation du commerce international dans le contexte de la charpente multilatérale plutôt que dans une confrontation directe qui se joue à travers des mesures de rétorsion par l'application de tarifs et autres.
Vous demandiez tout à l'heure, Emmanuel Buteau-Stubbs, de comment on pouvait rassembler les États-Unis et la Chine autour d'un même projet de réforme. Et cela va dépendre, en effet, comme le dit Elvire Fabry, des négociations qui ont lieu actuellement entre Pékin et Washington pour mettre fin à la guerre commerciale, mais aussi peut-être des négociations qui ont lieu aussi entre l'Union européenne et les États-Unis afin de mettre également fin aux tensions commerciales.
Donc en fait là il y a deux sujets. Il y a le sujet de la multiplication des guerres commerciales qui commencent à produire des effets économiques mesurables sur le ralentissement de la croissance mondiale, sur le ralentissement des investissements, et dans l'Union européenne on a vu les perspectives, c'est pas le seul facteur, mais on a quand même vu les perspectives de croissance revues à la baisse, et notamment pour l'Allemagne qui est la principale puissance exportatrice, toutes ces tensions, ces guerres commerciales commencent à produire des effets. Donc déjà pour le monde des entreprises et pour la croissance sens, on a absolument besoin d'une autorité supranationale de régulation des échanges avec un gendarme, avec un arbitre qui soit capable de faire respecter des règles. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Parce que le service des études économiques de l'OMC a travaillé sur la projection à 2022 des tensions actuelles de tous les milliards de dollars de droits de douane imposés dans les mesures de rétorsion, etc. Si on prolonge tout ça jusqu'en 2022, on a un vrai risque de décroissance, d'impact sur le PIB mondial qui pourrait être comparable à la crise de 2008. Donc on a besoin d'un organe de régulation pour trouver une solution à ces crises commerciales. Maintenant, par rapport à la Chine, il est clair que le paragraphe 13 là, de la résolution du sommet UE-Chine, c'est très bien, mais très honnêtement, c'est un petit élément tardif qui vient appuyer, en réalité, une démarche trilatérale tout à fait construite et préparée depuis des mois entre les États-Unis, l'Union européenne et le Japon pour justement mettre sur la table, c'est-à-dire concrètement écrire un papier qui propose de nouveaux critères en matière de subventions industrielles. Et donc, à partir peut-être du mois de mai ou juin, il y aura officiellement un document qui va circuler dans les instances concernées de l'OMC et on verra comment la Chine réagit. Ce qu'on comprend, c'est que la Chine est en train de mener une politique interne de revue des subventions industrielles et avec un objectif de rationaliser le comportement des entreprises publiques et qu'elle n'a pas intérêt, après avoir vu le marché américain se fermer, à voir le marché européen se fermer. Donc là, c'est peut-être aussi le pragmatisme qui, côté chinois, va conduire à accélérer le rythme de réforme interne.
Elvire Fabry.
C'est pour ça, ce qui est intéressant dans cette rencontre bilatérale, c'est que les Européens ont fait preuve d'une cohésion qui commence à se constituer vis-à-vis d'une amorce de politique européenne vis-à-vis de la Chine, mais d'une cohésion qui va être indispensable sur les mois et les années qui viennent, et notamment à partir d'une évolution de la position allemande. Position allemande qui, en effet, elle est très dépendante du marché chinois. Toutes ses exportations sont quand même très dirigées vers la Chine. C'était un partenaire commercial qu'elle ménageait jusqu'ici, et vis-à-vis duquel, depuis 2016, depuis notamment le rachat de l'entreprise KUKA, de robots, elle lui a fait changer quand même de position, évoluer, et même là, récemment, soutenir l'idée d'une révision de la politique industrielle européenne, révision de la politique de la compétitivité, de la concurrence européenne, et qui peut permettre d'avancer quand même beaucoup plus sérieusement dans une politique unifiée vis-à-vis de la Chine.
Vous êtes d'accord avec cette vision, Sébastien Jean ? C'est un petit pas de la Chine, mais quand même un pas important.
C'est un signal, disons, et je crois que le défi qui est devant nous, au fond, c'est d'apprendre à vivre dans un monde où plusieurs systèmes cohabitent. Parce que, au fond, on a l'économie de marché assez dérégulée à l'américaine, l'économie sociale de marché à l'européenne, et la Chine est à part entière un système en tant que tel, et il faut apprendre avec lui, c'est une économie socialiste de marché. Donc, ces subventions, elles sont au cœur de la négociation. Pourquoi ? Parce qu'elles sont aussi au cœur du système chinois, économique chinois. Il ne s'agit pas, il me semble, de leur demander de changer, ni même de contester évidemment pas leur souveraineté dans leur choix. Il s'agit de gérer les conséquences de leur choix sur leurs partenaires, c'est-à-dire de trouver les conditions pour une coexistence et une concurrence dans des conditions équitables entre des systèmes qui sont différents. Le problème, c'est qu'on n'a pas négocié le système avec cet état du monde en tête. Et donc, c'est un redoutable défi d'arriver à le modifier. En plus, souvent, on sait que les institutions internationales sont plus difficiles à réformer qu'à créer. Et donc, c'est un défi extraordinaire d'arriver à faire ce changement, ce glissement. Et donc, les Chinois ont bien compris que le système était en danger, qu'ils ne pouvaient pas juste ignorer les problèmes parce qu'ils risquaient un effondrement complet du système, ce qui serait certainement pas dans leur intérêt.
Ils auraient pu faire le choix de se replier sur eux-mêmes. Ils ont un marché intérieur suffisamment important.
Ils ont fait le choix d'essayer de rééquilibrer leur croissance depuis longtemps déjà, depuis la deuxième partie des années 2000. Ça a été très net et assez décidé, mais les exportations sont très importantes. Importante pour eux, qui plus est leur statut de superpuissance fait qu'aujourd'hui il y a une volonté très nette en Chine aussi de projeter à l'étranger la puissance économique de la Chine. Donc il ne s'agit certainement pas pour eux de se replier, rééquilibrer, s'appuyer plus sur les services, la consommation interne, oui, mais se replier certainement pas.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
We like your
The Rules of the Market du groupe français Ginger Ale. Sur France Culture, entendez-vous l'écho. Elvire Fabry, Emmanuel Buteau-Stubbs et Sébastien Jean sont toujours avec nous pour parler de la réforme de l'OMC. Alors cette refonte de l'Organisation Mondiale du Commerce apparaît peut-être d'autant plus urgente que le commerce mondial continue de ralentir. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tendance qui remonte finalement à plusieurs années, Sébastien Jean?
Alors, il y a deux choses. Il y a un ralentissement structurel et puis il y a les évolutions conjoncturelles. Ce qu'on a constaté après la crise, bon, pendant la crise, il se passe plein de choses, c'est difficile à lire, disons. Depuis que, d'une certaine façon, la poussière est retombée, on y voit un peu plus clair, en gros depuis 2011. C'est-à-dire que le commerce, en termes d'ordre de grandeur, croît en moyenne au même rythme que le revenu mondial. Donc on a un taux d'ouverture commerciale qui au niveau mondial a un petit peu régressé quand même, hein, donc en moyenne ça a été un petit peu moins vite, mais c'est ça l'évolution structurelle. Et le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que, et ça c'est vrai de très longue date, le commerce est beaucoup plus cyclique que l'activité. Donc quand ça va bien, ça va encore mieux pour le commerce que pour la moyenne de l'activité. Quand ça va moins bien, quand ça ralentit, et c'est le cas en ce moment, le commerce plonge encore plus vite que le PIB.
Alors ce qui est sûr peut-être, c'est que on ne reviendra pas à l'âge d'or du commerce mondial lorsque les échanges augmentaient deux fois plus vite que le PIB mondial. On a atteint une sorte de plateau.
Oui, c'était véritablement une période exceptionnelle et un changement d'une soudaineté extraordinaire à l'échelle historique et qu'on peut dater en gros de la période entre 1993 et 2008. Et là vraiment, on a eu un taux d'ouverture au niveau mondial qui a quasiment doublé et des investissements directs à l'échelle internationale qui en proportion du revenu ont à peu près triplé pendant cette période. C'était un changement historique en l'espace de 15 ans. C'est quelque chose qui a été d'une soudaineté extraordinaire, ce qu'on a appelé un peu l'hypermondialisation pour certains.
Alors dans ce contexte difficile, quelles sont les réformes qui pourraient être mises en place? Parce que ce qu'il faut dire aussi, Elvire Fabry, c'est qu'il y a d'autres réformes qui ont été tentées dans le passé, en particulier ce qu'on appelle le cycle de Doha, d'autres réformes qui n'ont pas fonctionné.
Il y a plusieurs choses. On vient de l'évoquer, en effet, les réformes, les problèmes systémiques au sein de l'OMC, et parmi celles-là, il y a déjà peut-être quelque chose qu'il faudrait s'attaquer, enfin une question à laquelle il faudrait s'attaquer plus spécifiquement, c'est cette question des subventions, à travers la question de la transparence des subventions, et notamment il y a ce problème de notification des subventions qui en fait n'est pas respecté très largement dans le monde. C'est-à-dire qu'on est arrivé aujourd'hui quasiment à un pourcentage de 38% des subventions qui sont notifiées dans le monde, ce qui veut dire que là c'est pas simplement un ou deux acteurs. C'est une question qui doit faire l'objet de toutes les attentions.
Et ce n'est pas que la Chine. On le voit avec Boeing et Airbus, les États-Unis et l'Union européenne se renvoient la balle, mais en réalité pratiquent ces subventions de la même façon.
Exactement. Et c'est aussi une des clés d'explication un petit peu de la façon dont même les États-Unis et l'Union européenne ont un peu traîné sur cette question de subvention, parce qu'on craignait aussi de se faire un peu pincer les doigts dans la porte en renforçant les mailles du filet. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel il faut avancer. Ensuite, par ailleurs, il y a des domaines nouveaux de négociation. Alors là, ce n'est pas des réformes, mais c'est de négociations qu'il faut mettre sur la table, notamment ces questions de e-commerce, la question du règlement des différends en matière d'investissement. On en a beaucoup parlé à propos des négociations du TTIP, TAFTA, c'est la question des règlements des différends entre investisseurs et États. Le fait qu'il n'y ait pas une instance multilatérale pour régler ces problèmes et qu'on ait une diversité de systèmes d'arbitrage dans le monde pose un problème. C'est quelque chose qui est notamment qui est au cœur aussi des négociations bilatérales avec la Chine. Il y a comme ça toute une série de chantiers qu'il faut qu'on arrive à mettre sur la table. Et vous parliez on évoquait le ralentissement du commerce international, mais indéniablement il y a aussi un facteur qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait on est parvenu à abaisser les tarifs comme autant d'obstacles au commerce. Maintenant, le commerce tourne beaucoup vers le secteur des services, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal également à favoriser, à obtenir des ouvertures de marché à travers les négociations internationales. Donc c'est aussi ce qui explique là qu'il n'y ait pas cette continuité dans le taux de croissance du commerce international. Et puis, il y a encore une dernière question, qui est ce qui a trait à toutes les différences de standards et de normes et tous les enjeux de coopération réglementaire qui pourraient être mis en place pour diminuer ces obstacles. Et là-dessus, dans ce domaine-là, également, au niveau multilatéral, ce ne sont pas des enjeux qui sont régulés, encadrés au niveau multilatéral.
Et alors peut-être que la priorité, Emmanuel Bettostep, c'est justement de relancer la négociation, alors que l'OMC aujourd'hui est peut-être devenu surtout un organisme de règlement des conflits.
Oui, absolument. L'OMC marche sur trois pieds. Il y a l'ORD, dont on a beaucoup parlé avec la crise annoncée de l'organe d'appel, qui sera peut-être dépassée. Il y a une mission Bonds Office avec un ambassadeur néo-zélandais. Il y a beaucoup d'acteurs clés du commerce qui contribuent à cette réflexion. On verra comment ça évolue d'ici décembre. Ensuite, il y a le pilier, il y a la jambe négociation. Donc là, c'est très clair que la dernière négociation multilatérale conclue, c'est l'accord sur la facilitation du commerce, qui est plutôt un bon accord en soi, qui est très pratique, qui vise à accélérer les flux de marchandises, le rythme de dédouanement. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, le diable est dans les détails. Donc il faut regarder également de près s'il a été mis en œuvre dans tous les pays en développement, notamment les pays africains. On a eu un certain nombre de remarques dans notre délégation à Genève pour montrer que ce n'était pas tout à fait le cas. Maintenant, la nouvelle martingale de négociation, comme le multilatéral, c'est quand même très compliqué et très lourd, c'est de faire des négociations plurilatérales, dites inclusives et flexibles, à l'intérieur de l'OMC.
Donc créer plusieurs groupes.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur la base du volontariat, une sorte de masse critique de pays membres de l'OMC qui disent, oui, ce sujet, par exemple le e-commerce, ça nous intéresse. Donc aujourd'hui, il y a plus de 70 pays qui ont dit à Buenos Aires, oui, réfléchir à des règles plurilatérales pour développer le e-commerce, le e-contrat, la e-signature, éviter la localisation forcée des serveurs, etc. Ça nous intéresse. Donc ça, c'est une piste intéressante qui pourrait permettre d'apporter des résultats au niveau de l'OMC sur le volet négociation. De la même manière, il y a une poussée pour une négociation plurilatérale en matière de régulation domestique des services. Puisque comme ça a été dit, les services représentent, et surtout pour les pays industrialisés, le gros en réalité de leurs exportations. Et puis enfin, il y a toute la partie transparence. Il y a le sujet des notifications. Donc là, très clairement, il faudrait des sanctions pour que les notifications soient quasiment obligatoires. Et puis, il y a aussi le sujet de l'examen des politiques commerciales. Ça, c'est pas très connu. Mais en réalité, c'est un système extrêmement vertueux qui permet, en fait, à tous les pays membres de l'OMC d'être informé de la politique commerciale mise en œuvre dans un des pays membres. Donc là, prochainement, il va y avoir le Canada. Récemment, il y a eu les États-Unis.
Donc ça, c'est un projet qui est sur la table.
Ça fait partie des fonctions permanentes de l'OMC. Donc c'est-à-dire que chaque année, il y a un certain nombre de pays membres qui présentent leur politique commerciale et qui doivent répondre aux questions de leurs pairs. Et des questions, parfois, très, très précises. Donc là, on a eu l'examen de la politique commerciale des États-Unis l'année dernière. Bientôt, il va y avoir le Canada. Et tout ça, ça contribue à la transparence, à la bonne compréhension. Et d'une certaine manière, ça démine des contentieux peut-être futurs que de comprendre comment les politiques commerciales sont élaborées. Et nous, au niveau du Comité économique et social européen, dont je suis membre, on réfléchit aussi à la voix de la société civile. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de l'OMC, il n'y a pas de relation organisée avec la société civile. Il y a un forum public une fois par an. Et de ce point de vue-là, l'OMC est très en retard par rapport à la Commission européenne qui a structuré son dialogue avec la société civile et qui a créé des comités consultatifs et un rôle véritablement de surveillance pour la société civile du respect des engagements pris par des parties prenantes, notamment au titre du chapitre développement durable.
Alors on l'entend, il y a énormément de projets sur la table, énormément de possibilités, mais la question c'est qu'est-ce qu'on va réussir à mettre en place, évidemment avec, encore une fois, des acteurs qui ont des intérêts peut-être aussi divergents que l'Union européenne, la Chine et les États-Unis.
Oui, il y a autant de visions de la réforme souhaitable, on l'avait dit tout à l'heure, qu'il y a d'acteurs en somme. Et donc, on voit bien que c'est redoutablement difficile d'arriver à un accord de grande ampleur. C'est pour ça, je crois, que de plus en plus, il y a un accord de beaucoup de monde pour dire il faut pas essayer d'aller vers le grand soir. D'une certaine façon, puisqu'on est au bord du gouffre, c'est pas la peine de faire un grand saut en avant. On va plutôt faire des petits pas de côté par des amendements aux règles existantes pour essayer de retrouver une façon de procéder un peu plus consensuelle et de d'accommoder ces différences. Parce que je crois que ce qu'il faut souligner aussi, c'est un peu le caractère tragique des disputes actuelles. C'est-à-dire que tant qu'on est à se disputer, parce que c'est un peu ça le fond de ce qui est en train de se passer, sur le partage du gâteau, la redéfinition des règles, dans le même temps, on est incapable, on est empêché de traiter nos problèmes communs. Et donc, par rapport à, en particulier, toutes les questions communes de changement climatique, de biodiversité, même de lutte contre la pauvreté ou de pauvreté technique, il y a un caractère tragique à être en train de se disputer comme ça, comme ce qu'on est en train de voir sur les politiques commerciales. Il faut bien comprendre aussi que le protectionnisme ne sera pas la réponse à ça. Ça, toute l'histoire le montre, je crois. C'est vraiment dans la coopération qu'on peut vraiment efficacement aller de l'avant. Donc, il y a vraiment une nécessité à être assez pragmatique, à essayer de s'entendre, même si c'est relativement imparfait, pour dépasser les blocages actuels.
La France avait tenté de conditionner l'ouverture des négociations avec les États-Unis par le fait de par l'accord de Paris sur le climat, en disant on ne va pas négocier avec les États-Unis qui n'ont pas ratifié l'accord de Paris sur le climat, mais on a vu que bon, ça n'a pas fonctionné, la France était minoritaire sur ce point. Est-ce que Elvire Fabry, l'OMC pourrait avoir vocation par exemple à superviser les accords commerciaux régionaux par exemple, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'accords à la fois bilatéraux et régionaux qui se sont multipliés ces dernières années, qui continuent de se multiplier et qui font peut-être concurrence à l'OMC.
Ouais, d'une certaine façon, à partir du moment où ces accords régionaux, et notamment quand il s'agit de grands ensembles, de grandes puissances, là, UE, Japon, on en a moins parlé ces derniers temps, mais l'accord qui a été mis sur la table concerne deux acteurs commerciaux importants dans le monde, et puisqu'il avait été tenté avec les États-Unis il y a quelques années, et enfin, tous ces différents accords permettent de mettre en place davantage d'éléments de régulation du commerce, parce que encore une fois, c'est aujourd'hui on est passé à une génération d'accords commerciaux qui ne traitent pas simplement la réduction des obstacles au commerce, mais qui aborde toute une série d'enjeux, la protection, la propriété intellectuelle, la place des entreprises petites et moyennes, il y a toute une série de questions, une meilleure compatibilité entre commerce et protection de l'environnement. Ce sont autant d'éléments de régulation qui permettent de déborder en fait simplement des purs enjeux commerciaux. Et ce renforcement des règles commerciales montre qu'il y a un enjeu fondamental qui se joue pour la promotion des normes européennes. Et au fur et à mesure que se cumulent ces différentes négociations régionales, c'est aussi l'ensemble de l'OMC qui en bénéficie. Si on arrive à traiter ce problème de divergence systémique de fond. Et là, on aura une question très spécifique et très stratégique à bien anticiper, qui est la question de la régulation des flux de données, qui est le grand défi de demain. Parce qu'on voit déjà qu'il y a trois grands ensembles qui sont en train de se dessiner, trois grandes écoles, on va dire, normatives, la position américaine, la position européenne et la position chinoise.
Et donc il y a un enjeu véritablement pour l'Europe de se positionner sur ces questions et de profiter peut-être de la situation actuelle pour justement imposer un certain nombre de normes.
C'est fait déjà, c'est-à-dire que l'empreinte européenne, en tout cas, elle s'est faite avec la mise en place des réglementations RGPD et la protection des données personnelles. C'est une troisième voie entre la voie américaine très libérale, la voie chinoise de localisation des données absolues et puis de contrôle par l'État aussi, enfin de ces données. L'empreinte européenne est là. Il y a déjà toute une série de pays qui rejoignent la position européenne. Maintenant, c'est vrai que ça va être un conflit entre des titans.
Et alors, en quoi peut-être que l'impasse actuelle pourrait se révéler une opportunité pour l'Union européenne? Emmanuel Butostoff, elle a un rôle à jouer aujourd'hui face au Japon, face aux États-Unis et face à la Chine?
Bah, ça a été dit tout à l'heure, l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale, mais en même temps, évidemment, elle n'a pas tous les ressorts politiques de la plupart de ses concurrents. Donc on est dans une situation à la fois avantageuse, parce qu'on peut jouer les honnêtes courtiers entre les États-Unis et la Chine et jouer des alliances croisées entre l'un et l'autre. Donc c'est ce qu'on fait avec les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Ensuite, on est avec d'autres partenaires pour condamner les pratiques unilatérales américaines. Donc on peut trouver que c'est très astucieux comme position de négociation. Moi, ce qui me frappe quand même, à la suite de mes récentes visites à l'OMC, c'est que la position européenne, me semble-t-il, est de plus en plus perçue comme vulnérable. D'abord, il ne faut pas négliger l'impact du Brexit sur tous les autres pays du monde qui assistent pantois à cette crise qui n'en finit plus.
Et les incertitudes
économiques. Le Royaume-Uni n'en sort pas grandi, mais l'Union européenne n'en sort pas grandi aussi. Donc c'est très clairement un facteur de vulnérabilité. En plus, l'année 2019 n'est pas une année très favorable pour l'Union européenne parce qu'on va devoir renouveler nos institutions. Donc on est dans une période qui n'a pas la plus évidente pour affirmer notre puissance commerciale.
Merci beaucoup à tous les trois, Elvire Fabry, Emmanuel Buteau-Stubbs et Sébastien Jean, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On va continuer évidemment à suivre de très près l'avancée des discussions sur l'avenir de l'OMC. Mais en attendant, il est 14h45 sur France Culture et c'est l'heure pour nous de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Comme chaque semaine, on vous propose un essai qui a marqué la pensée économique ou les sciences sociales. Aujourd'hui, éthique et économie du philosophe et économiste indien Amartya Sen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et spécialiste des questions de développement. Alors, s'il est courant de penser l'économie en termes d'efficacité, il est plus rare d'explorer les liens entre économie et éthique. Et c'est pourtant ce que propose Amartya Sen dans cet ouvrage qui rassemble une série de conférences prononcées à Berkeley dans les années 80. Alors, pourquoi penser ensemble l'économie et l'éthique selon Amartya Sen, Catherine Bross?
Alors justement, c'est tout l'argument qui est fait dans son livre. C'est l'idée que l'économie, de plus en plus, a dérivé vers une ingénierie des relations complexes et s'est éloignée de plus en plus vers des questions d'évaluation éthique. Et d'après Amartya Sen, c'est une des citations les plus connues, c'est que la distance qui s'est accrue entre l'économie et l'éthique a appauvri l'économie. Puisqu'en réalité, pour lui, l'économie, en tant qu'économiste, on a le droit de se poser la question « comment doit-on vivre ? Qu'est-ce qu'une bonne société ?» Et de plus en plus, l'économie néoclassique a dérivé vers de l'ingénierie qui évalue éventuellement les gains et les pertes en termes de bien-être, mais ne se pose pas cette question de « qu'est-ce qu'on veut comme société ?» Et c'est une question qui est légitime pour Amartya Sen en économie.
Et alors justement, Amartya Sen va remettre en cause la théorie du bien-être, ce qu'on appelle le welfarisme, dans les années 70. Expliquez-nous peut-être d'abord, Catherine Bross, en quoi consiste cette théorie?
Alors, c'est une théorie qui cherche à regarder les différents états sociaux. Et en fait, dans cet ouvrage d'éthique et économie, c'est une charge de Sen contre la notion d'utilité, le critère d'utilité, comme satisfaction des besoins, des désirs, du bien-être, etc. Et surtout une charge contre le critère de Pareto, puisqu'en fait, le critère de Pareto nous dit un état social est optimal si on ne peut pas accroître l'utilité d'un individu sans diminuer l'utilité d'un autre. Et en fait, ce que nous dit Amartya Sen, il nous dit, bon, d'une part, c'est un critère d'efficacité et pas tellement un critère éthique. Et deuxièmement, c'est tout à fait compatible avec des situations qui violent la morale, en quelque sorte. C'est-à-dire, on peut tout à fait considérer un état optimal la coexistence d'une profonde misère et d'un luxe inouï. Et ça, Amartya Sen le conteste en disant « il faut trouver autre chose que le critère de Pareto ».
Effectivement, pour Amartya Sen, cette vision utilitariste apparaît trop limitée. Et pour lui, comment est-ce qu'on peut évaluer le bien-être d'une personne ?
Alors justement, toute son approche par les capacités, c'est de dire qu'il faut aller même au-delà du bien-être en réalité. C'est-à-dire, il faut pousser l'utilité jusqu'au bien-être, mais qu'au-delà du bien-être, il faut évaluer la capacité d'action des individus. Et ce qu'il définit comme les capacités, c'est vraiment la liberté positive, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mener le genre de vie qu'on a envie de mener. Et donc, à partir de là, toute bonne politique vise à retirer les barrières qui freinent cet accomplissement, en fait. Donc, c'est vraiment la promotion du rôle d'agent qui est mis en avant. C'est-à-dire la capacité à pouvoir donc mener la vie ou faire les choses qu'on estime. Et ça, sans être contraint, soit par des barrières sociales, soit par des barrières psychologiques, devenir vraiment un agent, c'est-à-dire avoir la capacité d'agir sur sa vie et d'agir sur son environnement.
C'est une conception du développement comme le retrait de toutes les barrières institutionnelles, sociales et psychologiques qui entravent les pauvres ?
Absolument. C'est vraiment une autre vision de la pauvreté, c'est-à-dire vraiment dans l'analyse des politiques de développement, il y a eu un avant et un après Sen. Avant, si je schématise, vous aviez le revenu par habitant. Après, vous avez effectivement un champ beaucoup plus vaste du développement, qui est le retrait et des politiques d'autonomisation, d'empowerment, on dit, des pauvres, avec le retrait de ces barrières qui sont de nature très diverses, comme psychologiques, sociales, etc.
Et ce sont des réflexions qui vont avoir un impact concret, notamment sur le programme des Nations Unies pour le développement. Ça va permettre l'apparition de nouveaux critères.
Oui, absolument. Donc SEN est connu pour avoir stimulé et même participé à la création de l'indice de développement humain. Donc il prend en compte le revenu par habitant, mais qui prend aussi en compte d'autres éléments comme la santé et l'éducation. Donc ça a été son impact au niveau des mesures. Après, il a aussi eu un impact, si la Banque mondiale parle d'équité maintenant, c'est clairement l'apport de SEN aussi. C'est un peu la limite aussi des travaux de SEN, c'est qu'en fait, conceptuellement, ils sont très riches, mais il y a quand même un saut à faire pour la mise en place de politiques. Et ce saut, il n'est pas toujours évident, parce que ça reste quand même très théorique. Et donc, dans la mise en place concrète de politiques, il y a des politiques très diverses, très disparates, des fois contradictoires, qui se réclament de SEN. Parce que justement, il y a cet écart entre la théorie et la mise en place des politiques.
C'est l'une des principales critiques qui lui a été faite, en effet. Mais alors, quelles sont les autres? Qu'est-ce qui a été reproché à cette théorie des capacités, Catherine Brosse?
Elle a un peu les défauts et les avantages, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement foisonnante. Si vous voulez, si on doit mettre en place une politique d'autonomisation des pauvres, le champ est très très vaste, donc ça effectivement ça a ouvert l'analyse, mais il est aussi très touffu en fait, c'est-à-dire par quel bout est-ce qu'on doit prendre les choses. Concrètement, comment on fait pour promouvoir les capacités? Et c'est la difficulté principale en fait qui a été mise en avant, c'est la mise en application de ces politiques, et c'est aussi avec des choses qui sont des fois assez impalpables. Et donc aussi, l'autre chose, c'est que ça a beaucoup favorisé donc le développement local. Et donc, c'est étonnant de voir à quel point la pensée de SEN a infusé la société dans plein de pays, en fait, en faisant la promotion, par exemple, de la délibération collective, de la promotion du rôle d'agent. Et donc, des politiques qui se veulent essentiellement de développement local. Et le problème, c'est qu'en fait, l'argument, c'est de renverser des relations de pouvoir qui existent au niveau local pour donner l'émancipation des pauvres, etc. Mais qui finalement se heurte aussi à la capture par les élites de ces programmes et donc qui est un peu à chope au niveau du terrain et au niveau pragmatique de la mise en place de cette pensée, en fait.
Et quelles sont les inspirations intellectuelles d'Amartya Sen? Il a notamment eu un certain nombre de débats théoriques avec Rawls, dont la théorie de la justice a été publiée en 1971, donc quelques années avant les conférences qui donneront cet ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui.
Alors, il a écrit un ouvrage, Sen, qui s'appelle L'idée de justice, dans lequel il explique très bien qu'il s'inspire beaucoup de la théorie de Rawls. C'est-à-dire une théorie qui est assez libérale, mais qui pose aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'un ordre social. Et là où il s'en différencie, en fait, et c'est vraiment l'originalité de SEN, c'est qu'en fait, dans la théorie de Rawls, c'est beaucoup sur les institutions, sur les procédures justes, que se définit l'ordre social juste, alors que SEN, lui, insiste beaucoup sur les outcomes, c'est-à-dire les réalisations. Est-ce que ce qui en sort, est-ce que la société telle qu'on la voit, elle est juste? Il a aussi été influencé par sa propre expérience, puisqu'il est indien. Et donc, parce qu'il a vécu enfant, en fait, les famines au Bengale, par ce qu'il a vu aussi lorsqu'il y a eu des émeutes communautaires donc au Bengale lors de la partition.
Alors justement, c'est effectivement deux événements extrêmement importants que vous citez là, Catherine Brosse, et qui ont nourri ses réflexions sur la pauvreté. La famine meurtrière donc a connu le Bengale en 1943, Amartya Sen a alors 10 ans, et les violences communautaires effectivement lors de la partition de l'Inde en 1947. Qu'est-ce que ces événements ont constitué pour Amartya Sen, Catherine Brosse?
Je pense que c'est ce qui a nourri, enfin c'est ce qu'il reconnaît d'ailleurs, c'est ce qui a nourri sa passion pour l'étude du développement en fait. Parce que d'une part la famine, il démontre que la famine n'est pas du tout liée à un manque de nourriture, à un manque de denrées alimentaires, mais à une mauvaise répartition.
Il dit il n'y a pas de famine en démocratie.
Voilà. Et le deuxième élément, en fait, il raconte une histoire qui est que lui était d'une famille hindoue et qu'il a vu lors des meutes communautaires des musulmans venir quand même travailler dans des quartiers hindous, donc au péril de leur vie en réalité, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix. Et donc, pour SEN, c'est vraiment ça la pauvreté, c'est-à-dire ne pas avoir le choix. Et c'est pour ça qu'il définit les capacités comme une liberté positive, c'est-à-dire avoir le choix de faire ce qu'on désire faire, ce qu'on souhaite faire. Et donc, ça a été très marquant pour lui. Il en reparle souvent quand il définit cette pauvreté comme une absence de capacité.
Et les théories d'Amartya Sen ont pu inspirer un certain nombre de personnalités politiques, quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple, s'en revendique ouvertement.
Oui, tout à fait. Il y a l'idée, donc il y a vraiment l'idée dans la pensée de SEN, notamment dans les capacités, que les individus doivent être des agents. Et donc, par exemple, c'est de là qu'on a tiré les slogans « Rendre aux pauvres la lutte contre la pauvreté ». Et donc, il y a cette idée, c'est une théorie qui est quand même, au fond, un peu libérale, qui est que les individus doivent pas être les récipiendaires de l'aide, tout ça, c'est une perte d'autonomie, en fait, mais au contraire, doivent être acteurs de leur propre destin, et donc doivent endosser le rôle d'agent. Et ça, effectivement, on le retrouve dans certains discours politiques.
Et ce que vous voulez dire, c'est que finalement, ça peut presque nourrir l'idée d'une responsabilité à des pauvres dans leur propre pauvreté. Ça pourrait aller jusque-là, même si ça n'est pas la pensée d'Amartya Sen au départ.
Alors, responsabilité, non, ça serait un peu dur, mais c'est plutôt de dire que cette lutte contre la pauvreté, si elle est imposée d'en haut, elle est vide, elle est creuse. Alors que si elle est saisie par les pauvres, il y a un côté important qui est la liberté d'agir, le rôle d'agent, et que ça a une valeur en soi. Puisque pour Amartya Sen, le point qui est important, c'est que il y a la liberté qui doit être prise en compte. Il ne faut pas seulement regarder le produit de la liberté comme ce qu'on fait en économie. On regarde donc le résultat, la qualité du résultat, mais il y a le processus qui est important. C'est-à-dire, est-ce que je suis allé au bout? Est-ce que c'est mon initiative? Ce qu'il a permis de faire, c'est de resignaler que l'homo economicus n'est pas seul, et qu'il est dans un contexte social, et que ce contexte social, il influence sur les préférences, il influence sur les choix, et que ça, le cadre de l'utilité permet pas de le capter. Et qu'il y a l'influence de l'identité sociale, de barrières psychologiques qui sont importantes, et qui rentrent dans le champ d'analyse de l'économie, et qui ne peuvent pas être appréhendées directement par le critère d'utilité. Et c'est en ça, en fait, qu'il y a eu une contribution très très importante, parce qu'il a permis d'ouvrir le champ de l'économie sur plein d'autres disciplines, en signalant que l'homo economicus n'est pas seul.
Et alors, quel est aujourd'hui l'héritage de la pensée d'Amartya Sen, Catherine Bross?
Alors, elle est de plusieurs ordres. Elle est d'une part dans la vision du développement, dans les politiques de développement qui se veulent beaucoup plus ouvertes, qui veulent considérer des barrières autres que vraiment la pauvreté monétaire. Mais elle est aussi, et c'est vraiment étonnant de voir qu'elle a infusée dans plein de courants, et on entend dans des débats politiques la promotion du rôle d'agent, la promotion de la délibération collective, qui en fait sont en germe beaucoup dans la pensée de Sen et sont développées aussi par Sen dans ses écrits. Et donc on retrouve dans différents domaines, que ça soit de la politique, que ça soit de l'économie, que ça soit aussi de la philosophie. Donc en fait c'est une pensée qui a été très riche et qui ne s'est pas seulement contenté d'influer sur le développement, même si c'est là qu'il est le plus connu, puisqu'on l'a beaucoup surnommé le prix Nobel des pauvres.
Prix Nobel qu'il obtient en 1998. Et alors pourquoi avoir choisi cet ouvrage d'Amartya Sen en particulier, Catherine Bross, par rapport à d'autres ouvrages postérieurs qu'il a pu écrire?
Parce que c'est là qu'il fait la critique la plus directe de l'économie telle qu'on la pratique, et du critère d'utilité, et donc qui a beaucoup inspiré son approche par les capacités. Et en fait, il me semble que sans cette critique, on ne comprend pas très bien cette approche par les capacités. C'est vraiment cette critique qui permet de comprendre d'où vient son approche, d'où vient ce critère de capacité, et qui permet de comprendre pourquoi est-ce que les politiques de développement, pourquoi est-ce que la vision du développement économique a été tellement chamboulée par cette pensée.
Pour vous poser la question autrement, est-ce que vous conseilleriez la lecture de cet ouvrage-là, ou est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres ouvrages qui permettraient aussi de saisir la pensée d'Amartya Sen et qui seraient peut-être moins théoriques?
Ça dépend à quel public. Si c'est pour des économistes, je pense que c'est une lecture qui est très importante pour comprendre la suite, en fait. C'est le point de départ. Après, il y en a d'autres qui expliquent sa pensée de manière assez riche, mais qui restent effectivement très destinés à un public plutôt un peu, disons, à cheval entre la philosophie et l'économie. Mais ça permet de comprendre un peu mieux tout le discours qu'il a après dans des ouvrages qui sont beaucoup plus grand public, notamment les conférences qu'il avait données à la Banque mondiale vers un nouveau modèle économique, mais qui en fait paraissent un peu creux si on n'a pas à l'esprit d'où ça vient et cette critique qui a été faite de la façon dont l'économie est pensée et pratiquée.
Merci beaucoup Catherine Bross de nous avoir permis d'entrer dans l'œuvre théorique d'Amartya Sen. Son ouvrage Éthique et économie est paru aux Presses universitaires de France. Un grand merci. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, c'est Arjuna Andrade qui sera à ce micro pour une série consacrée aux dons et aux gratuits. Quant à moi, je vous retrouve dans un peu plus d'une semaine pour parler des économies africaines. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.